Bonsoir, Robert.
Bonjour, Alexis. Hey, fait chaud, hein?
Fait chaud, il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on le dit qu'il fait chaud. Comme je disais, j'étais allé au débatteur cette semaine. Moi, ça fait j'ai 40 ans, puis ça fait depuis que je me souviens qu'on parle des changements climatiques, puis qu'il va avoir des conséquences.
Mais là, on les renifle.
On les renifle, on les sent dans la gorge. Puis
tout New York les ressent.
Ouais,
aussi.
Ben tout New York, mais les frères et sœurs des Premières Nations le vivent. Il y a des drames humains. Là, on est obligé de sortir de chez nous.
Communauté qui en accueille une autre.
Ouais,
d'ailleurs,
comme hein. À Pessamit. C'était à Malioténam. On avait justement un invité la semaine dernière qui était évacué pendant qu'on enregistrait l'émission. À Lac-Simon, on a été évacué. On a des communautés dans le nord aussi qui sont évacuées. On disait qu'il fallait se préparer au changement climatique. On l'a pas tant fait que ça. Aujourd'hui, ben, on a 150 feux. On est capable d'en gérer 40 à peu près.
Écoute, on bat tous les records de saison entière, puis c'est un début de saison seulement, ça en dit long. C'est très grave, et on le dit depuis longtemps, puis c'est pas nous autres qui vont régler le problème, mais tout le monde va régler le problème. Et c'est pas juste l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire de tout le monde.
C'est l'affaire de tout le monde, mais tu sais, les changements climatiques, c'est sans compagnie, grosso modo, 80% des changements climatiques, c'est 80 ouais. Compagnies dans le monde, 80 multinationales. Fait que oui, on a une responsabilité individuelle.
Tout le monde sait que ce que tous les voisins devraient faire, les voisins corporatifs, les voisins personnels, sauf moi, parce que moi, j'ai pas le temps, je suis occupé et j'en ai besoin.
Ouais, en tout cas. Mais on envoie quand même nos pensées à ceux qui sont touchés directement par ces drames, ces forêts, puis on pense aussi à cette nature-là, à tous les animaux qui
quand
perdent leurs habitats.
Quand on pense aux territoires autochtones touchés, ça en est pour des années à s'en relever. Il y a des territoires qui vont être maganés pour longtemps.
Oui. Est-ce qu'on va tout de suite replanter encore des essences qui s'y rapportent? Parce que c'est un des problèmes, tu sais. On coupe à blanc, puis au lieu de laisser la forêt y aller avec un cycle de régénération naturelle qui inclut normalement des feuillus au début, ben on plante tout de suite des essences qui rapportent soit des conifères, donc des épinettes ou du pin.
On essaie de faire les bonnes choses en faisant des rangées de trembles parce que ça brûle moins facilement puis ça peut couper le feu. Sauf que les compagnies forestières arrivent quelques années après, ils coupent les trembles aussi.
Ouais.
Ça sert à quoi?
En tout cas, on a un invité. On a des invités aujourd'hui en deuxième partie.
Il doit
partie.
Avoir une idée là-dessus, lui.
Oui, je suis sûr. Il vit dans le nord avec les Abitibis. Mais en deuxième partie d'émission, on va avoir Mélanie Vincent qui va venir nous parler du Festival Koué. Mais pour commencer, pour notre longue entrevue, on a Maurice J. Kistabish. Koué, Maurice, ça va bien?
Oui, ça va très bien, oui.
Oui, bonjour.
T'es dans quel
un
coin, là?
Un peu emboucané, mais
ouais.
Ça va.
T'es, oui, hein? T'es dans quel coin? T'es-tu à Ottawa ou...
Non, je suis dans le coin de Picogan.
OK. Donc...
Et ça se passe comment dans votre coin?
Ben, ça va par bourrée, là. Ça dépend de la direction des vents, puis c'est ça. Il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres. Et des fois, ça passe par-dessus nos têtes pendant qu'on dort. Là. Un peu l'exemple de New York, là, qui sont emboucanés ce temps-ci.
Ouais.
C'est assez difficile, tu sais, de penser à... Ben, on pense beaucoup au côté humain, mais on pense pas aussi... qu'il y a des animaux aussi les animaux qui sont plus grands comme les orignaux, tout ça peuvent s'en sortir, mais on parle des animaux qui sont plus petits puis que tu sais, je pense qui ont un rôle à jouer dans l'écosystème naturel. Il va y avoir des conséquences à un moment donné là-dessus, là, par rapport à ça, parce que il va manquer des éléments importants dans la chaîne de l'écosystème, tu sais, pour pouvoir faire fonctionner le système normal, si vous voulez, du fonctionnement de territoire.
Oui, parce que les petits animaux vont nourrir des plus gros, qui vont nourrir des encore plus gros. Donc, toute la chaîne écologique, biologique est perturbée par ce genre d'événement-là.
Exactement. Mais on parle beaucoup de l'événement du côté humain là, ces temps-ci, mais c'est ça. On oublie, parce qu'on est trop habitué à dire, bon, ben la forêt, comme j'ai entendu tantôt le commentaire à propos de la reforestation qui rapporte au lieu la reforestation générative naturelle
ouais.
qui permet justement de soutenir ou d'équilibrer l'écosystème naturel, c'est ça.
Penses-tu qu'une crise comme ça va permettre de ramener une certaine gestion du territoire par les communautés, parce que tu as travaillé beaucoup justement sur la gouvernance autochtone, sur comment avoir une certaine résilience, comme ton titre de maîtrise s'appelle « Résilience et pratiques de résistance face aux politiques de gestion territoriale en territoire algonquin dans un contexte de gouvernance autochtone ». Penses-tu que ce genre de crise-là peut réveiller les gouvernements puis faire en place qu'on nous donne une plus de place aux peuples autochtones? Parce qu'on le sait dans le monde, les études le démontrent, quand on veut protéger la biodiversité, on est mieux de placer ça entre les mains des Autochtones.
Oui, mais je pense que le problème majeur à la source serait la non-reconnaissance des ordres juridiques autochtones.
Ouais.
Ça, c'est partout dans le monde, ça, là. Parce que, justement, les ordres juridiques autochtones sont très liés, justement, de près à la gestion territoriale qui est millénaire, si vous voulez, parce qu'on a réussi à maintenir un équilibre parfait, harmonieux, l'eau propre, les forêts, qui étaient en santé. Oui, il y avait des choses naturelles qui se passaient, comme les feux, mais c'était comme... Un feu de forêt, il faut voir ça aussi d'un autre côté, ça fait partie du clan naturel. Dans le sens que c'est régénératif, ça rajeunit une forêt qui est trop vieille, mettons.
Ouais.
Mais dans ce cas-ci, par exemple, on est rendu un petit peu trop loin avec les activités humaines. Là, c'est plus normal, là. C'est plus la nature qui est en cause. C'est vraiment l'action des humains qui est un petit peu trop, aller un petit peu trop loin. Je ne veux pas mettre le doigt, je veux pas envoyer le doigt à personne. Je pense qu'on est tous coupables les uns puis les autres.
Mais vous disiez, Maurice, qu'on ne reconnaît pas les instances gouvernementales territoriales des Autochtones et qui, eux, sauraient gérer les territoires. Quand on ne reconnaît pas les institutions, on ne reconnaît pas ce qu'ils peuvent faire non plus.
Ben, c'est ça, parce que tout ce qu'on a présentement, c'est des outils ou des législations étatiques. Ces législations, on l'a vu avec les années, ça marche plus ou moins parce que on donne 10 jours à des Premières Nations dans une consultation de dire qu'est-ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années sur le territoire, tu sais, alors que les gestionnaires étatiques, si vous voulez, du gouvernement ou des gouvernements, eux prennent des années à préparer un plan de gestion qui demande aux Premières Nations, on vous donne 5 à 10 jours, là, donnez-nous ce que vous en pensez faire quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas l'idéal. Ça, c'est un des problèmes. Le deuxième, c'est que oui, ça fait longtemps que les Premières Nations essaient de ralentir ou d'affirmer, si vous voulez. Moi, j'aime pas utiliser le mot crise, ni barricade, parce que tous ces mots-là ont été comme inventés dans un sens, parce que c'est plutôt une affirmation de dernière instance que les Premières Nations ont. Vous avez, parmi les outils de la Première Nation pour faire valoir leurs droits, vous avez le territoire ancestral qui, on a les négociations des ententes, on a le système légal, on a le recours médiatique, puis en dernier, il reste la désobéissance civile. On a vu dernièrement, je veux pas aller dans les détails, mais juste avant que les feux ne démarrent, des résistances qui se sont faites justement dans le coin des Atikameks et des,
ouais,
et des Innus. Mais ça, c'est pas nouveau parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà commencé la résistance dans un sens. Premièrement, c'est faire reconnaître le titre ancestral avec en Colombie-Britannique. Vous avez aussi les occupations qui ont été faites aux États-Unis par l'American Indian Movement, l'Alcatraz, revendiquer des territoires fédéraux non occupés, via un traité. Vous avez les Mohawks en 1974 qui ont occupé le coin de Adirondack, dans un camp de jeunes filles, pour justement faire affirmer leur souveraineté. Vous avez les paroisses, vous avez en 95, vous avez Oka en 90, Wet'suwet'en en 2020, etc. Ben, toutes ce sont les crises du cœur qui sont reliées toutes sur la question territoriale, justement, ou la gestion de la question territoriale. Mais l'un des problèmes, c'est ça. C'est justement, on ne donne pas assez de ou on, si on en donne une place aux Premières Nations dans la gestion du patrimoine, de la gestion du territoire, tout ça, elle est très minime. Parce qu'à la fin, toutes les politiques ou les législations, les choses, à la fin, c'est toujours le Conseil des ministres qui a le mot final.
Ben, c'est ce que j'allais vous dire, Maurice. Dans toute l'histoire de l'humanité, je ne connais pas de pouvoir qui, avec plaisir, ont cédé du pouvoir à quelqu'un. Et là, on leur demande de céder du pouvoir à des instances autochtones. Et pour céder du pouvoir, il faut se prendre de bonheur pour ceux qui possèdent le pouvoir, qui qu'il soit, d'ailleurs.
Il faut qu'il y ait un intérêt colonial aussi dans cette session-là.
Tout à fait, tout à fait.
Fait que, mais en tout cas, c'est parce que si vous regardez les ordres juridiques autochtones, il y a plusieurs juristes autochtones et non autochtones, mais même la Cour suprême le dit, le territoire puis les ordres juridiques, ils ne sont pas vraiment, tu sais, oui, on dit, tu sais, les documents que l'on lit, que disent qu'on éteint nos droits, mais finalement, si on regarde, finalement, c'est on retourne à la source même du droit, on voit que les ordres juridiques qui n'ont pas vraiment été éteints, t'sais. Ils sont encore là. Nous sommes en réalité dans un système de pluralisme juridique. Il va falloir reconnaître ce fait-là. Et puis, justement, pour pouvoir recorriger ou corriger ce que nous vivons en ce moment, c'est la seule manière de pouvoir s'en sortir, je pense, c'est de se reconnaître entre nous, de pleinement et entièrement, et pas essayer de toujours jouer un qui a plus de pouvoir que l'autre. Tu sais, c'est faut faire ensemble, ça. Et puis, il y a le défi. Le système judiciaire, il a reconnu, il accepte que les Premières Nations ont des droits et des ordres juridiques existants. Sauf que c'est au niveau de la politique, le problème existe. Tu sais, on parle justement du partage des pouvoirs au niveau de constitutionnel 91-92, on dit qu'on nous donne seulement les réserves, mais en réalité, c'est tellement vague cette clause-là que on parle de le fédéral, il reconnaît les Indiens et leur territoire, mais ça dit quoi? Mais en réalité, ça a été juste minimiser tous nos droits nos droits ont été minimisés de cette façon-là par des interprétations qui sont très mineures. Là, je ne sais pas comment.
Puis c'est tout le temps dans ces interprétations-là de la Cour suprême, bien qu'on nous reconnaisse des droits par l'article 35 de la Constitution de 82, on a tout le temps le moyen d'enfreindre nos droits si ça vient, si c'est juste pour l'ensemble de la majorité canadienne.
Exactement. On parle surtout suite à ce qui s'est passé à New York avec autour des années 2000 avec les deux tours jumelles et tout ça. Les moyens de l'action directe ou les moyens de résistance, ou appelez ça comme vous voulez, ont commencé à être judiciarisés. Là. Ils ont commencé à être presque criminalisés parce que aujourd'hui, quand une Première Nation tente de défendre un morceau de territoire quelconque, immédiatement, on l'étiquette de criminel.
De terroriste.
Et tout ce que vous voudrez pour lui dire, enlever la crédibilité. Alors que tout ce qu'il veut faire, c'est justement si lui connaît bien son territoire, puis il a dit, bon, écoute, il y a une partie là-dedans qui est vraiment importante sur ce territoire-là qui va avoir un impact réel et concret sur l'ensemble du territoire si on ne le protège pas. T'sais, dans ces choses-là, mais c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec le temps. Puis, comme un exemple, en 2000, justement, qu'est-ce qui est rapport avec mon mémoire de maîtrise et tout ça, justement, c'était une compagnie qui voulait aller couper des arbres sur des sépultures, un cimetière. Tu sais, c'est vraiment... pour nous, on ne voit pas le cimetière de la même façon que le monde allochtone en général, ou étatique, où est-ce qu'on met une clôture.
Ben, c'est le même problème qu'il y avait à Oka à l'époque de la crise d'Oka, hein, le cimetière.
Il y avait aussi le même problème à Oka. Donc, c'est pas juste... il y a plusieurs raisons. C'est toujours lié au territoire et aux éléments sacrés qui sont liés au territoire.
Je me demande bien, ça serait quoi la réaction si on voudrait passer un pipeline dans le cimetière Côte-des-Neiges, hein?
Exactement.
Oh, c'est pas possible, c'est un cimetière.
Ouais, ben ça serait sûrement ça la réaction. Ouais. Hey, on est avec Maurice Jikistabish, expert des sites à haute valeur autochtone pour la nation Abitibi-Anishinaabe. Maurice, on va prendre une petite pause musicale, on te revient tout de suite après. Maurice, dans ton travail de tous les jours, tu travailles dans la négociation, si je comprends bien.
Juste avant que je tombe dans les valeurs autochtones, j'ai été pendant une vingtaine d'années, si c'est pas plus, à négocier des ententes avec les minières et les forestières.
OK. Les ERA, si je me rappelle bien.
Les ERA. Puis tout en aussi un certain nombre d'années avec les Anishinaabeg sur leurs revendications particulières et globales. Autrement dit, j'ai travaillé toujours dans le secteur territoire depuis que j'ai sorti de l'université en 80, la première fois, avant de retourner aux études encore, puis de continuer à travailler, étudier.
Et là, tu es en train de faire un certificat en droit autochtone aussi, je crois?
Exactement. Puis là, je vais commencer à enseigner à l'Université d'Ottawa.
Ben oui, j'ai vu ça sur Facebook, à faculté de droit puis à faculté des arts. Ça va être quoi les cours que tu vas enseigner?
Je préfère garder ça encore. Disons qu'on est en train de travailler sur les détails.
On est entre nous autres, là, Maurice.
Y aurait-tu un territoire académique pour les Autochtones?
Ben oui, dans beaucoup d'universités, comme à l'Université d'Ottawa, manifestement, moi, qu'est-ce que je peux constater, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour laisser de la place aux Autochtones, embaucher des professeurs autochtones, des chargés de cours autochtones. Il y a des universités comme Ottawa qui font beaucoup plus d'efforts que d'autres.
Disons qu'on est très bien entouré. Je vais l'être très bien entouré. On a l'ancienne grand chef des Atikamekw, Eva Ottawa, qui va être une collègue.
Oui.
J'ai l'ancien chef de Kitigan-Zibi, Gilbert White Duck, qui est avec moi aussi, qui est aîné en résidence, mais aussi qui suit des cours, puis en même temps qui en donne aussi. Puis on a aussi... Madame Ottawa, qui est une des gouverneurs, justement, je veux dire pas Ottawa, excusez, c'est Commanda.
Oui, qui a été nommée dernièrement, là.
Oui. Puis tout ça, ça fait que je suis quand même assez bien entouré à ce niveau-là. Et puis, tu sais, ça fait quand même une bonne année si c'est pas plus que je côtoie là, l'Université d'Ottawa, puis que finalement, parce que ces discussions-là pour aller enseigner, ils ont commencé au mois de janvier l'année passée, au début de l'année. Là. Puis finalement, ça s'est abouti avec la signature du contrat là, il y a quelques semaines. Là. Puis les détails sont les charges de cours sont à venir et tout ça. Puis c'est pour ça que je n'ose pas trop m'avancer encore
quel cours exactement tu vas donner. Mais bon. Tu allais nous parler de valeurs. J'imagine que tu vas parler de valeurs Anishinaabeg dans tes cours.
Oui, je vais pouvoir expliquer justement c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par valeur. C'est quoi des valeurs ou des sites valeurs autochtones en français? C'est parce que ça se dit pas la même chose. En anglais, on dit native values,
ouais.
Mais en français, on le traduit par des sites à haute valeur autochtone. On dirait que c'est pas dans le même monde du tout parce que on parle de sites. Et on parle de valeurs, tu sais, en anglais. Ce sont là des éléments qui peuvent être culturels ou sacrés, dépendamment de justement de ce qu'on retrouve sur le territoire. Justement, Comme si on prend une sépulture, par exemple.
Oui.
Au niveau des Québécois, ben, au niveau des politiciens québécois, c'est au niveau culturel, mais pour les autres Premières Nations, si on va enterrer quelqu'un là, c'est sacré pour nous, c'est un endroit qui est sacré. Donc, pour nous, on classifie ça comme un endroit sacré, mais quand on justement on travaille avec les gouvernements et tout ça, il faut le mettre au niveau culturel. La culture est tellement vaste, puis ça peut être, c'est pas nécessairement du sacré, la culture là, au niveau tactique, au niveau des allochtones, mais pour nous, ça fait toute une différence.
Maurice, j'aurais une question pour vous. Dans le milieu des allochtones, milieu universitaire en particulier, quand ces gens-là se retrouvent avec les gens de base, milieu d'ouvriers par exemple, le fossé est plutôt cultivé que franchi, disons, tu sais. Il y a vraiment un fossé entre les deux et ça parle pas la même langue, le même langage. Est-ce que dans le cas d'un universitaire autochtone, son lien avec la base est plus facile à exercer?
Là, je suis en train de me demander si je comprends bien votre question. Vous parlez de fossé, vous parlez de langage entre deux.
Oui, je veux dire que souvent les universitaires allochtones sont particulièrement snobs quand ils se retrouvent parmi des milieux ouvriers. Est-ce que quand il y a un universitaire autochtone, quand il se retrouve sur une réserve avec des gens qui ne sont pas universitaires du tout?
Oui, là, je comprends votre question. Non,
OK.
Dans mon cas, moi, je tente de vulgariser au maximum pour être au même niveau que les gens avec qui je parle. Je veux être sûr qu'ils comprennent le message que je leur offre, que je leur donne, parce que ça à un certain moment donné, à un certain âge, la carrière, je veux dire, pour qui qu'on fait ça? On fait ça pour les gens de la base. On est là pour, on est allé chercher cette connaissance-là ou ces connaissances-là pour pouvoir les repartager avec nos gens de la communauté, mais en même temps, c'est pour les aider à mieux communiquer entre nous. Si moi, je veux aller chercher un message d'une personne de la base, je vais parler le même langage que lui, mais quand je vais arriver à l'université, je vais prendre ce message-là que la personne de la base me donne. Mais là, je vais le transférer à un niveau plus scientifique pour pouvoir être plus, compris, si vous voulez, dans le monde académique. Là.
Mais puis, en plus,
quand on parle justement avec les gens de la base, il faut absolument vulgariser au maximum.
Puis dans le monde autochtone, les gens de la base, c'est eux souvent qui ont le savoir traditionnel qui a pour beaucoup de personnes autochtones autant de valeur ou plus de valeur que le savoir académique qu'on pourrait des fois qualifier de colonial.
Ben, exactement. C'est justement la connaissance. Nous, on fait juste le transcrire, on fait juste le mettre sur papier, alors que la connaissance vient directement des gens de la base. Un autre côté, c'est aussi les gens sont très visuels. Donc, moi, je fais souvent des PowerPoints quand que je vais voir les gens de la base.
Maurice,
oui?
Malheureusement, notre longue entrevue se termine avec toi en ce moment. On est à la fin. Je te dis, Kitty Miigwetch, c'était super intéressant de t'avoir avec nous.
Merci.
Je pense qu'on va te réinviter.
On verra comment est-ce que je vais être occupé dans le jour à venir.
C'est bon. À la prochaine, Maurice. Kitty Miigwetch.
Okay, merci beaucoup.
Bye. 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 Bye.